Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les costumes, les habilleuses veillent sur leur quotidien. Elles, puisque toujours ou presque ce sont des femmes, bien avant que le rideau se lève, sont là pour laver, repasser, repriser, recoudre, retoucher, amidonner, blanchir, détacher. Si les affiches ne retiennent pas leur nom, les habilleuses habillent et déshabillent les comédiennes et les comédiens, partagent avec eux ces moments particuliers qui précèdent l'entrée en scène. Et pendant la représentation, elles sont encore présentes en coulisses pour assurer en quatrième vitesse leur changement de peau, pour réajuster ou réparer dans l'urgence. En résumé, dans l'ombre, discrète et silencieuse, l'habilleuse est toujours là, sur le qui-vive, prête à répondre à la demande du metteur en scène, d'un comédien, à faire face au moindre accident vestimentaire. En 1998, ce métier méconnu, souvent moins bien considéré que d'autres emplois du spectacle, les Nuits Magnétiques nous le faisaient découvrir à travers un documentaire passionnant au cœur de l'équipe des habilleuses du Théâtre de l'Odéon.
Bonjour. L'habillement, c'est quand le costume est fini et qu'ensuite il est utilisé par le comédien.
Regarde, non, ça va, c'est bon, ça va.
C'est bon ?
Non, c'est bon.
Non,
mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai, ça va détendre.
Bien, c'est
agréable. C'est très rapide, en fait, c'est une robe qui est simple à mettre, donc c'est surtout lui remettre l'éclair. Puis bon, elle est un petit peu énervée parce qu'ils vont démarrer dans pas longtemps. Voilà. Bien, ben, je vais descendre pour voir ce qui se passe en bas maintenant. Alors, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Tu peux passer par là ? Sur les portes. Deux petites portes en fer. Ah, enfin, attention, il fait sombre.
Le costume, si vous voulez, c'est quand même un élément important de la représentation. Ça compte énormément, hein, puisque c'est un signe. Donc, elle gère, elle règne sur cet empire des signes-là. Et c'est elles qui ont la responsabilité du costume. Non, ça, c'est très important.
Alors là, on est dans le coulisses.
Au début du spectacle, on va venir ici. Et on fera les changements au moment où il faudra les faire. Quoi. Okay. On essaie de faire le moins de bruit possible, parce qu'il ne faut pas que ça dérange, comme on a juste une ouverture.
Là, en fin de compte, on est dans les coulisses. Donc, on est passé sur un plateau, là, côté jardin, côté cour. Et pour nous, on sait où on doit poser les costumes, quoi. Ça sera toujours au même endroit. Donc on est passé au lointain, donc derrière. On est venu, donc, quand on est spectateur, on est à droite. Donc c'est côté court. Et on passe... Je vais poser les costumes. Il y a tous les techniciens qui sont en train de préparer le décor, là. Et puis donc c'est pour ça qu'on ne fait pas trop de bruit et que c'est sombre.
La confidente, on remonte le moral, on est la maman, enfin tout ce genre de choses un petit peu qu'on est obligé de... je crois que c'est même pas obligé, je crois que ça fait partie d'un tout. Ce métier, si on l'aime, c'est automatique, on le fait comme ça.
Habilleur, habilleuse.
Terme à double étymologie. Habit, dérivant d'habitude, coutume, et habillé au sens de préparer, apprêter. Au théâtre, ce mot désigne l'emploi des personnes, le plus souvent des femmes, qui préparent le costume des acteurs et les aident à le revêtir, en en prenant soin avant et après la représentation.
Thank you.
c'est un espèce de planning donc qui correspond au spectacle tambour qu'on fait actuellement. Ce qu'on a, c'est donc on a les actes, hein, acte 1, 2, 3, 4, 5, et le nom des comédiens. Donc ce qui correspond à ces cases-là, ce sont les rôles hein, qu'ils font dans chaque acte. Hein, et les petites couleurs qui sont rajoutées avec les prénoms, c'est simplement l'habilleuse qui va s'occuper de faire le changement de costume. Hein. Avec à quel endroit il se passe, cour ou jardin. Voilà.
Il y a une attention au moindre détail. Elles savent rassurer les acteurs, les prendre avec leur bon côté. Parfois, elles deviennent même, franchement, les confidentes des acteurs. Parce que parfois, c'est l'inverse. Entre deux actes, un acteur remonte dans sa loge, traîne, change vaguement de costume. Hein, et tout d'un coup, il y a une relation qui se noue, qui est très, 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 très belle. Ce sont des personnes, encore une fois, je dis très, très sensibles et très, très secrètes, sous des airs comme ça, complètement manuels. Souvent, ce sont des gens qui adorent le théâtre, qui ont rêvé d'en faire parfois dans leur jeunesse. Et puis qui, tout d'un coup, ils deviennent une attention rêveuse. Enfin, moi, ce sont des personnes vraiment qui m'impressionnent, d'une certaine manière.
On a malheureusement actuellement sur le marché des gens qui se prétendent habilleuses et qui ne le sont pas. Tout simplement, c'est parce qu'elles ont fait des écoles de stylistes ou alors elles ont essayé d'être danseuses, comédiennes, je ne sais pas trop quoi, dans le spectacle, qui se disent, oh, bah, après tout, une habilleuse, qu'est-ce que c'est? C'est juste aider à passer un costume à un comédien, je peux en faire autant. Et il y a tout un travail d'amont qui est très, très important, et c'est là où il faut absolument être de métier.
Une porte au troisième étage du théâtre de l'Odéon, au cœur de Paris, côté entrée des artistes. Sur cette porte, un simple écriteau, chef habilleuse. C'est le territoire de Monique Bonzon, depuis 26 ans dans la maison. Autour d'elle, ses filles, comme elle les appelle, Chantal, Christine, Isor, Florence, Elisabeth, Carmina, Bénédicte, s'affairent à la préparation de deux pièces montées par Georges Lavaudan, le directeur de l'Odéon, à l'occasion du centenaire de Brecht, La noce chez les petits bourgeois et Tambour dans la nuit, actuellement à l'affiche.
Ouais.
Quand c'est après-midi, tu seras tranquille, là, on va aller...
Oui.
Et toi, j'ai mis dedans, t'as pointé, t'as tout ce qu'il faut.
Ok, je le ferai, ouais.
Le faux ventre de l'opérette, s'il te plaît.
Ok. Et alors ça, c'est bien ça.
C'est bien ça?
Ouais, c'est pour faire un essai et remplacer les 10 meubles.
C'est quoi? C'est Marie Poule qui m'en a parlé.
Mais là, on risque pas de les confondre. Pour le moment, on saute pas sur l'étiquette.
Dans l'après-midi, en début d'après-midi, on va commencer déjà. Si on prend les Brecht, on a du lavage, du repassage, de la vérification de couture. Ensuite, on a de l'amidonnage, puisqu'il y a des cols 1930. Donc, on est amené à le faire. Et ça, on va repasser, bien évidemment. On va aussi utiliser ce qu'on appelle un steamer, qui est en fait le comme un pressing, si vous voulez, qui est une vapeur. Qui est, je crois qu'on appelle plus ça vaporetto, je crois, dans les pubs. Donc, voilà, tout ce qui sera fait sur le costume. Ensuite, il y aura au niveau des loges la préparation des loges, c'est-à-dire de mettre en ordre les costumes, de préparer sur les tablettes toute la lingerie. Et puis la mise en état, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de mettre aux endroits donnés les costumes pour effectuer les changements pendant les spectacles. Et ça, ça représente déjà entre 3 et 4 heures de travail.
Si on a rallongé le pantalon de Gilles, de l'acte 4. Donc là, tu sais, la marque de l'ourlet, il faut la laisser. Okay.
D'accord.
Oui. J'ai mis la ceinture de Monsieur Béton sur le pantalon. Un gaffeur. Et ça, ce sera après. Ça sera, elle est marquée.
C'est vrai que j'ai monté les bretelles.
D'accord. Mais pour le filage, c'est pas grave. Hein.
Il y a toujours les autres.
Oui, on peut se faire suivre. Bon, alors attends. Je vais là-bas, je vais l'emmener.
Gilles Larona et
Marbéton. Vous pouvez nous les décrire un peu?
C'est un pantalon en lainage marron foncé, quoi.
qui met pour noces. Et puis Marc, c'est un t-shirt qui met pour tambour, pour un homme sous.
Sous une veste marron aussi, de gainage. Là, je suis chez Gilles, donc je mets ça.
Donc ça, c'est sa loge.
Ouais. Avec tous les costumes et les chapeaux et tout. Il y a une douche, une armoire personnelle, une armoire pour tous les costumes, un lit, une tablette et des glaces entourées de lampes pour pouvoir se maquiller, quoi. Une petite fenêtre et un lavabo, quoi, tout ce qu'il faut pour un comédien, quoi.
Et qu'est-ce que je vois une petite étiquette, qu'est-ce que c'est là sur
on met les noms et les rôles. Comme il y a deux pièces, on a mis le nom de l'acteur, le rôle et la pièce que c'était, pour pas qu'on se mélange au début, quoi. Et quand ça part en tournée, les habilleuses qui sont demandées sur place, au moins vont beaucoup plus vite quand on leur donne les feuilles avec tous les repères.
Donc là, sur celui-là, il est écrit Marc Béton, bourgeois tambour.
Tambour, ouais. C'est pour la scène numéro de l'acte 3. Il est en bourgeois, donc il a ce manteau et un haut de forme qui est juste derrière. Ah si, je suis à côté aussi.
Et là, c'est bien la gélatine.
C'est exprès qu'elle est tachée?
Non, c'est la poussière.
Le maquillage, peut-être?
Là, ça aussi. Non, mais là, c'est la poussière du truc aussi. Il le met pas. Il le met juste à la fin, un petit peu, quoi. Ouais.
Donc ça fait partie du travail aussi, de regarder s'il y a des taches, ouais. S'il y a des...
On arrête l'après-midi pour regarder si c'est pas déchiré, s'il y a des taches à repasser. On les passe à la vapeur. Donc ça, et maintenant il faut que j'achète les filles.
On ferme là ?
Oui, je veux bien.
Il y a une atmosphère différente entre les loges d'hommes et les loges de femmes ?
Bon, moi, je... pas tout le temps, mais les femmes mettent plus souvent des photos de leurs enfants et les hommes, ce sera plus souvent les petites lettres qu'on leur donne pour la première.
Alors là, on est dans la loge de Dan.
Oui, mais il manque la plupart des costumes.
Et sur ceux qui sont là déjà, vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce que c'est?
Bah, pour Noce, elle a la robe de la mère. Et elle a, bon, vous voyez pas, mais elle a un faux ventre. Elle a une espèce de combinaison avec des gros seins et des grosses fesses qu'on met en dessous de la robe. La robe marron qui fait un peu kitsch, quoi. Elle a des chaussures à boucles, vernis. Et puis des bijoux, quoi. Des bijoux simples, une broche et des boucles d'oreilles en nacre. Et puis c'est tout.
Et vous nous dites que tous les costumes sont palables. Ils sont où, les autres?
Quoi, c'est des détails. Là, pour le moment, ils sont partis à l'atelier. Il y a un atelier qui a été formé juste pour la pièce. Donc, les détails qu'il fallait changer, c'est parti à l'atelier. Et puis, ça redescend tout à l'heure. Sinon, il faut rétrécir, reprendre, ou alors ils veulent la rallonger, ou alors il faut repatiner, parce que bon, le costumier trouve qu'il ne sait pas assez.
Ça veut dire quoi, repatiner?
C'est abîmer le costume. Ou faire semblant qu'il est abîmé. Soit par la peinture, soit là, plein de...
Donc jusqu'au dernier moment, à l'atelier, ils vont...
Oui. Mmh. Il va y avoir plein de retouches. Je pense juste à un truc, j'ai un bouton à changer.
Le bouton qui partait ou quoi?
Non, c'est les boutons des faux cols. Et puis celui que j'avais mis hier, il est un peu cassé. Donc j'ai dû changer.
Ici, en ce moment, c'est l'atelier. On a monté l'atelier de costumes dans l'Odéon. C'est aussi un studio de répétition. Et ponctuellement, on installe un atelier. Donc voilà, c'est ici que sont fabriqués tous les costumes faits spécialement pour le spectacle, pour les Brecht.
D'accord. Et là, vous, qu'est-ce que c'est que ce bout de chiffon tout froissé que vous avez
dans
les mains ?
Ce tas, c'est une petite culotte en soie qu'on a fabriquée. Je dis en soie parce que bon, c'est de la soie fine pour une prostituée du spectacle. Je viens de la teindre, de changer la couleur et je la fais sécher, froisser, de façon à casser l'effet neuf de la soie. Et bon, c'est un petit peu, je fais ça, c'est un peu urgent, hein, parce que c'est pour cet après-midi. Donc elle a un petit peu l'air d'un tas de boue pour le moment, mais ça va être bien après.
Alors là, on est donc dans le royaume des costumiers et des costumières, et on est à quelques portes de chez les habilleuses. Est-ce que cette proximité géographique n'est que géographique, justement ?
Non, non. Alors là, justement, là en ce moment, c'est formidable parce que la proximité, elle est quasi indispensable, surtout en travaillant sur l'urgence, là, comme en ce moment, où on monte deux spectacles en même temps. Bon, bah là, on travaille complètement ensemble avec l'habillage. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que un problème se pose dans la réalisation, dans le suivi, bah, on peut le dire de suite. Ouais. C'est vraiment main dans la main et géographiquement, c'est idéal comme ça.
Ah oui, non.
Non, parce que je suis à côté de la planche à repasser, je pense déjà qu'il fait chaud. Je vais pas sécher la culotte, mais.
Alors une fois que le costume est terminé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un passage de relais entre la costumière qui donne le costume à l'habilleuse et finalement, au bout d'un moment, c'est l'habilleuse qui va en avoir la responsabilité.
Voilà, c'est tout à fait ça. Ça, c'est le schéma classique normal. Hein. C'est-à-dire que quand les costumiers ont fini leur travail, ils livrent vraiment les costumes, ils livrent leur enfant aux habilleuses. Ou habilleur d'ailleurs, parce que là aussi, il n'y a pas d'exclusion, qui après vont être complètement sur la représentation. C'est-à-dire qu'après, le costume, j'allais dire, leur appartient, et donc elles vont devoir l'entretenir et avoir le rapport avec le spectacle. C'est-à-dire que là, il y a une passation qui peut être. Enfin, là, ici, qui est bien vécue, parce qu'on a travaillé ensemble. Pendant la réalisation. Souvent, c'est un petit peu douloureux et il y a incompréhension entre les deux parties, quelquefois.
Quand on a la chance là, d'avoir l'équipe de l'atelier de Pierre Betoul, ça c'est bien aussi parce qu'en fait, on voit tout de suite avec lui si on peut, lorsqu'on s'aperçoit que ce qu'il nous a mis comme fermeture du costume, c'est trop léger ou c'est trop petit, pour aller très vite lors de changements rapides. Donc on peut le faire directement. Mais on a effectivement des ateliers qui nous font des robes magnifiques, c'est pas le propos, mais qui nous font ça haute couture avec des pressions qui sont des petites puces. Ça c'est bien pour des défilés de couture, quoi, mais pas pour nous dans le fonctionnement. Il nous faut des choses qui soient solides, repérables très très vite. Et donc quand on a affaire à un atelier qui est très, très théâtre, c'est bien. Et effectivement, bon, Pierre travaille aussi pour le cinéma, mais je sais qu'il le fait différemment. L'autre jour, on en parlait. Bon, on a de très jolis petits mouchoirs. Et tout de suite, il m'a dit non, je garde ça pour le cinéma. Parce que nous, pour le théâtre, il faut que ce soit résistant en même temps. C'est-à-dire que de la salle, il faut que ça ait l'air aussi fin, aussi joli qu'au cinéma, mais en même temps, nous, il faut que ce soit très solide. Donc, on passe sur d'autres matières.
Elles sont toutes les deux dans les loges, là.
Au départ, bon, en fait, j'avais des études tout à fait normales. Il y a eu 68, j'ai fait comme tout le monde, j'ai un peu pété les plombs. Et il a fallu que je fasse autre chose. Et donc, j'ai fait une formation de couture, haute couture, parce que je ne sais pas, ça m'intéressait aussi. Puis en fait, c'est un peu ennuyeux dans les ateliers. Et j'ai entendu parler de cette école où on formait des habilleuses. Donc je me suis présentée au concours de la rue Blanche à mon époque, qui ensuite s'est appelée l'ENSAT. Au départ, c'était plus exactement pour être costumière. Puis quand j'ai vu que c'était aussi un atelier, donc je me suis dit, et que j'ai vu des habilleuses, des filles qui montaient, qui descendaient, je me suis dit, là, ça bouge bien. Et en fait, je suis passée dans cette section. Et j'ai eu comme professeur Mademoiselle Thouan, qui est une femme formidable, qui exerce encore, malheureusement, dans des lieux qui ne sont absolument pas adaptés pour. Donc les gens qui sortent avec des diplômes maintenant, je ne veux pas être méchante, mais sont pratiquement nuls, quoi.
Qu'est-ce qu'on attend au niveau des qualifications d'une habilleuse ?
Ben, on attend, déjà au départ, on attend d'elle. Dans ses qualifications, disons manuelles, c'est qu'elle sache de très très bien coudre, ensuite amidonner, coquer, tuyauter, savoir faire des réparations.
Là, ça va un peu vite pour moi. Vous ne pouvez pas nous expliquer tous ces termes ? Coquer, amidonner, on n'a pas l'habitude d'entendre ça.
Eh bien, l'amidonnage, je pense que ça, c'est un petit peu plus compréhensif. Parce que, bon, il y a encore des blanchisseuses, très peu, mais enfin, c'est le même problème. Donc, c'est de durcir des cols, durcir des jabots, durcir des plastrons. Ensuite, bon, ce qu'on appelle coquer, c'est-à-dire qu'avant qu'arrivent des matières qui sont permanentes maintenant, pour, lorsqu'on fait des costumes de style Renaissance, par exemple, où il y a des fraises, qui est un col très important qui, pour le costume, eh bien, avant, il fallait le remettre, après le lavage, il fallait le remettre en état. Donc c'était le même système que l'amidonnage pour le durcir, sauf qu'on a, on a un appareil qui s'appelle une coque, qui a la forme... plus ou moins grande, ça se... pour pouvoir recoquer et redurcir en fait cette fraise. Tuyotage, eh bien, c'est comme un fer à friser et on tuyote les jabots.
Blanchir, décatir, ces mots évoquent un univers désuet, celui des petits métiers du temps de nos grands-mères. Sophie Loukachevski connaît bien Monique Bonzon pour avoir monté plusieurs spectacles à l'Odéon, notamment le théâtre Feuilleton, dans la petite salle il y a 4 ans. Elle parle des habilleuses, avec admiration, avec nostalgie aussi.
Elles ont une dimension poétique et puis une dimension d'abord effectivement de mémoire, donc utile. Et ensuite, je dirais que la disparition de ce métier-là est catastrophique parce que à partir du moment où on a des gens pour coudre et pour faire un costume, on peut faire des choses très belles. À partir du moment où il faut tout faire faire dehors, ça coûte tellement cher qu'on ne le fait plus.
C'est un privilège peut-être de quelques rares théâtres publics d'avoir en permanence une équipe d'habilleuses qui ne soit pas embauchée ponctuellement pour chacun des spectacles.
Aujourd'hui, effectivement, dans le système actuel, c'est un privilège absolu. Mais en fin de compte, c'est aussi ce qui se passe dans les pays ex-dits de l'Est, où moi je me souviens avoir travaillé en Hongrie en 89, où le théâtre avait à disposition une équipe pour le décor, on allait choisir son bois dans la forêt, on avait une équipe de costumiers, enfin tout était à disposition, c'est-à-dire les théâtres étaient des vraies petites usines ou des petites villes à elles toutes seules qui fonctionnaient de façon autonome. À partir du moment où on rentre dans un système dit capitaliste, tout ça est fini, hein, puisqu'on rentre dans un système de rentabilité. Mais comme dans tous les systèmes de rentabilité, en premier, on supprime la main-d'œuvre. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup de tendresse pour ces métiers-là.
Viens, on descend.
Ah.
Pardon.
C'est bon, t'as pas de montrer
quoi ? Si, ils sont en bas.
C'est bien,
j'ai oh, la lumière, je les ai mis dans le dessous.
Là.
Allez.
Descends, ma belle mariée.
La belle antenne, là.
Ouais.
On va où là ?
Oh, nous allons dans, sur le plateau.
Oui. Ah, c'est femelle quand même.
Nous allons du côté court. Hein?
C'est quoi ce long chemin qu'on a fait là jusqu'à maintenant alors ?
Eh bien, on a traversé le plateau de jardin à cour. Et nous avons mis en place la robe de mariée pour le changement tout à l'heure. Plus les manteaux. Et les manteaux que Florence a sur le bras et le chapeau. Et de ce pas, je vais dans les dessous chercher les deux autres qui sont rangés dans le fly.
D'accord.
C'est quoi le fly ?
C'est une armoire à costumes.
Et la cuisine, c'est là ?
Là où, c'est ici.
Où la mariée se change,
elle se change
pendant
ici.
Noce.
Où est Carmina.
Voilà.
La place de prédilection.
Voilà. Et juste là. Oui, là, vous êtes bien assis, vous voyez tout. Non, mais on a les retours de vous, de toute façon.
Oui,
thank you.
Un hobby aussi simple que j'ai commencé, je ne veux jamais plier, afin de ne pas devenir orgueilleux.
Remonter dans les loges, à travers le dédale de marches, de couloirs aux tapis rouges élimés et aux murs nus. Ce parcours, les habilleuses pourraient le faire les yeux fermés. Elles passent leur journée à grimper et à redescendre, de leur étage à la scène, des coulisses aux loges. À l'approche du lever de rideau, leur va-et-vient s'accélère. Elles s'activent, discrètes et efficaces auprès des comédiens. Dans sa loge, Philippe Morier-Genoux tire sur une cigarette en attendant le maquillage.
Ben, une habilleuse, c'est un petit peu une mère, une femme, une sœur, une présence féminine qui veille là sur la garde-robe.
Féminine parce que ce sont que des femmes.
Oui, ça arrive que... Et voilà, ça, c'est la chef habilleuse qui rentre. Vous voyez ? Je le disais, donc c'est une sœur. Hein.
Vous apportez les chaussures bien cirées.
Bien cirées. Moi, à vrai dire, elles avaient un problème, ces chaussures. Elles glissent sur le plateau. Et alors, ils n'ont pas le temps de mettre de l'antidérapant en dessous. Alors, elle est allée avec un cutter. Elle m'a fait des biffures pour que je ne tombe pas. Vous voyez, elles sont gentilles. Hein. Je les gâte tout, moi.
Et alors, on disait donc, c'est une présence féminine. Mmh. Toujours.
Ah ben, des fois, il arrive que des fois, ça soit la grosse surprise. Et une fois, donc, à Belgrade, j'entends frapper à la porte. Et c'était donc l'habilleuse qui était censée rentrer. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois arriver un malabar qui mesurait pas de 2 mètres. Il passait à peine à travers la porte. Et il devait venir mettre un bouton à bascule. Là. Vous savez, c'est toujours un peu difficile. On sait plus les mettre. Les boutons à bascule, et genre je le vois arriver, il avait des doigts énormes, et que s'il loupait le bouton et qu'il prenne le coup, j'y passais. Quoi. Il s'appelait Dimitri, je crois, quelque chose comme ça. Mais il était très gentil. Quoi. C'est pas exclusivement féminin, mais en principe, oui, parce que si vous voulez, c'est elle qui, quand même, repasse les costumes, recouse un bouton, dernière minute. Donc il y a une maintenance du costume, et bon, c'est dans notre société, hélas, une spécificité féminine.
C'est la dernière personne que vous voyez avant d'entrer en scène, l'habilleuse.
Oui, oui, oui. Elles sont là, et puis ça fait un ballet assez étrange, d'ailleurs, parce que c'est des accumulations d'énergie, ça montre que le spectacle va commencer. Elles ont aussi le trac, parce que... Il ne faut pas qu'elles se trompent, elles ont 10, 15, 20 comédiens et comédiennes. Et puis c'est à ce moment-là que le comédien est le plus fragile, le plus... Il y a une ébriété, on a le trac. Elles le ressentent formidablement aussi, donc le moment est un peu sacré, un moment est un rituel un peu sacré.
Là, en fait, on met son collant, on va lui passer la robe, les chaussures...
La robe avant la perruque, parce qu'après, on ne peut plus.
Le passé, c'est très juste, alors, avec la perruque.
Et au fait, le soutien-gorge de l'autre pièce, vous l'avez rétréci ?
Oui.
Oui ?
De 2 cm, comme on avait mesuré, en fait.
Ah, toi. D'accord.
Je pense que ça ira. On va revérifier, donc c'est ça. On pourra toujours les bouger encore si...
Oui, bien sûr. Alors là, attention de ne pas mettre du rouge en lèvres. Je vais mettre, tu sais quoi,
hein? Ouais,
un truc comme ça. Ça, c'est là que ça va être tout craque. Elle est horrible, l'enfilée. C'est un vrai fourreau. Elle est toute fraîche, ça fait du bien. Quelle
les chaussures, et c'est fait. C'est rapide.
Ouais, c'est du rapide là. C'est moins rapide pour l'autre.
L'autre, ouais, pour le tambour, ce sera.
Pour le tambour, il sera encore là. J'ai rangé tout ça.
Le collier, ah, il n'a pas réparé.
Non, mais elle va me mettre. Okay. Elle va le faire réparer. Voilà.
Il en reste tout à l'heure.
Mais ouais.
Je vais l'obliger.
Bah oui, quelque part.
Eh ouais.
Ça t'apprendra à fauter, hein.
Je l'ai pas fait exprès.
Non, mais on fait jamais exprès, de toute façon.
Il y en avait une, c'était une jeune stagiaire. Alors elle était obligée de me faire un pansement, elle était obligée de m'habiller, j'étais presque quasiment nu. Et j'avais une jambe qui était pourrie, donc j'avais un gros maquillage d'une heure sur une fausse jambe. Alors elle venait, elle me disait « Ah, c'est comme mon grand-père !»
Ça n'établit pas parfois des rapports un peu ambigus, le fait de se laisser habiller et déshabiller par une femme comme ça ?
Si. Mais c'est bien l'ambiguïté. C'est bien, oui, non, ça peut être soit maternel, ça peut être soit plus, peut-être plus viril, plus amoureux, mais je sais pas, enfin, pour ma part, je n'ai pas noué d'idylle avec une habilleuse dans ma loge.
Ça arrive ?
Ça peut arriver, oui, pourquoi pas, c'est la vie. Oui ? Bonjour.
Oui ? Non,
pardon.
Non, mais continue.
Voilà.
Ok Rémi, quand tu veux.
Pour le metteur en scène, c'est assez mystérieux. C'est une chose qui se passe en coulisses et d'une certaine manière, on n'a pas beaucoup de relations, si ce n'est parfois des relations excédées en disant alors ça va pas assez vite, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup. Mais c'est très mystérieux ce qui se passe là-bas. Après, parfois, lorsqu'on donne des notes, par exemple, on passe dans les loges 10 minutes, un quart d'heure avant le spectacle pour donner des notes de travail aux acteurs. Puis on voit cette espèce de rituel très mystérieux qui se passe entre les deux personnes. C'est en même temps très, très banal, très, très païen, parce que quoi, c'est quoi ? On passe un vêtement, on s'assure que ça va bien, que la coiffure est à peu près là. C'est vraiment, pour certains spectacles, c'est quasiment une des choses les plus importantes.
Et vous leur donnez des indications dans ces cas-là ?
Non, c'est le metteur en scène, malheureusement, pour lui, c'est toujours le plus pressé possible, hein, j'allais dire. Je crois que c'est pas une personne qu'elles doivent beaucoup porter dans leur cœur, parce qu'en quelque sorte, c'est toujours quand ça va pas. Quand ça va, finalement, le metteur en scène ne dit rien. Et c'est vrai que, je sais pas, je le regrette, je le dis là presque publiquement. Des fois, je trouve on n'est pas assez à dire combien leur présence est précieuse.
En général, vous avez un rapport avec elles pour vous énerver contre elles quand elles ont pété assez rapide.
Oui, enfin, je nuance ça quand même. Disons, c'est vrai que ça peut arriver, parce que je dis encore une fois, c'est ça. Tout d'un coup, c'est parce qu'on découvre, voilà, le rideau se relève, et puis il n'y a pas l'acteur en scène, et puis tout d'un coup, on entend un peu de bruit, un peu d'énervement. La lumière se rallume dans la salle, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe ? Puis on dit, bah écoute, moi, je ne suis pas prêt, mes godasses étaient pas lassées, j'ai pas ma moustache, je sais pas quoi, ma chemise n'est pas terminée de boutonner. Alors là, il y a des mini drames comme ça, très, très rapide, et puis très vite, on se rend compte que tout le travail a été fait parfaitement et que c'est au metteur en scène à trouver les solutions pour donner un petit peu de temps réel aux personnes qui en ont besoin.
Attends, tu n'avais pas la tête ou tu l'avais comme l'autre fois ?
Comme quieres.
Comme quieres.
Comme ça.
Comme quieres.
Elles sont d'une ponctualité, d'une gentillesse. Non, elles sont vraiment ici, vraiment, c'est particulier. Hein. Elles sont vraiment...
Vous avez eu des expériences différentes avec des habilleuses ?
Non, en général, elles sont sympas. Mais là, on se connaît maintenant, parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est là. Donc, on les connaît bien. Et c'est un rapport de famille, quoi. C'est agréable.
Parce que vous-même, vous êtes dans un état un peu particulier, quand même. Hein. Juste avant d'entrer en scène, ça ne doit pas être facile pour elles.
C'est des angoisses, mais les pauvres, elles n'ont pas à les porter. Hein. C'est vrai.
Vous ne les partagez pas avec elles ?
Hélas, le comédien est très seul.
Tous les comédiens au plateau pour régler les
pour ça, il est très seul. Pour entrer en scène, ça, on a beau être nombreux, ça, on est tout seul. Hein. C'est comme le proverbe, tu seras seul dans ton cercueil. C'est vraiment ça.
Il y a le micro qui vous appelle, le haut-parleur. Là.
Bah, on va essayer. Allez, au revoir.
Au revoir, merci.
Et puis il y a la tension de l'acteur lui-même. L'acteur n'aime pas systématiquement être sortir de scène puis être happé, manipulé. Des fois, il y a certains spectacles, si vous voulez, où un acteur sort de scène, il est happé. Je me souviens encore une fois très bien de ce problème de Terra Incognita où un personnage joué un conquistador, hein, c'était un spectacle, si vous voulez, un hommage au Mexique. Donc il y avait des figures mexicaines, du Mexique antique, enfin, du Mexique historique, de la conquête, et puis aussi du Mexique contemporain. Je me souviens très bien d'un personnage donc, qui sortait complètement avec une armure habillée en conquistador et qui devait se transformer en travesti, c'est-à-dire il passait une robe années 50 pour aller danser un danson, j'allais presque dire 30 secondes plus tard. Donc il fallait le changer entièrement, il fallait lui enlever sa fausse barbe, son casque, sa cotte de maille, ses chaussures, lui mettre une nouvelle perruque, lui refaire le maquillage, lui passer sa robe, lui mettre ses hauts talons. Il fallait faire ça en 30 secondes. Quand l'acteur sortait, il y avait 5 personnes qui lui sautaient dessus, si vous voulez. Et il était repoussé en scène, il ne savait même pas. Je dis une blague, il aurait très bien pu rentrer en robe avec encore sa barbe de conquistador. Enfin, on serait chez Woody Allen ou chez les Marx Brothers, c'est ça qui se passerait, si vous voulez. Donc des fois, c'est vraiment très... Enfin, c'est chaud, hein, comme on dit, c'est un peu une expression triviale, mais il y a vraiment... Et l'acteur lui-même, vraiment, ça dépend des acteurs. Quoi. Des acteurs ont horreur de ça, parce que c'est comme si on vous transformait, vous avez l'impression de tomber dans un gouffre.
C'est un cas qui est assez classique. C'est-à-dire qu'on a eu le cas d'un comédien qui est en scène, était censé être dans une prison. Il avait juste une chemise et une culotte. C'était pour l'illusion. C'était Stéphane Fraisse. Et en fait, la culotte s'est défaite pendant le spectacle. Et effectivement, bon, elle s'est retrouvée. Heureusement, il était à genoux avec la culotte descendue. Sortant de scène, il était effectivement très en colère. Et son habilleuse, on en a entendu pendant plus d'une heure. À la suite de ça, bon, calmement, j'ai regardé la culotte et je me suis aperçue à ce moment-là que ce n'était pas la faute de l'habilleuse, c'est-à-dire que ce n'est pas le bouton qui était mal cousu, non vérifié, mais dans son jeu, il avait même craqué le tissu, donc il y avait un morceau de tissu qui manquait. Donc on a résolu le problème en mettant un cordon après pour que plus jamais ça ne se produise. Mais en même temps, bon, je suis allée voir le comédien en lui montrant, en lui disant que ce n'était pas une faute de l'habilleuse. Ceci dit, il ne faut pas dire que ça ne nous arrive pas. Il arrive qu'il y ait des fautes de l'habilleuse, mais qui sont à éviter. Parce que la colère de la chef habilleuse est autant à redouter que celle du comédien.
Village auto, dans 5 minutes.
Vous voulez nous décrire un peu ce que vous avez dans votre petite trousse à couture là.
Eh bien, j'ai des aiguilles, j'ai une paire de ciseaux, tout un petit tas, réserve, fil. Bon, j'ai même de l'aspirine au cas où. J'ai des agrafes, des épingles. Mais bon, ça ne sert pas tellement de réchauffement, mes ciseaux. Puis bon, toujours des 2-3 bricoles. Tout un tas de mon centimètre. Moi, chausse-pied, cas de besoin.
Et ça vous sert dans quel cas, tout ça?
Ben, pour les changements, parce que des fois, il y a une déchirure ou un truc comme ça.
Alors, vous cousez en 5 minutes?
On coud vite fait, avec gros points, ou on met une épingle. Il n'y en a pas. Il n'y a pas grand risque. Si on n'a pas, on ne peut pas faire autrement.
Et ben voilà un comédien qui passe, si on le suivait à son habillage, on y va?
Ce sera pour ma copine d'à côté. Ah, c'est bon. Elle qui s'en occupera.
D'accord.
Personne ne soigne. Oui. Allez aux toilettes.
C'est normal, je parle pas. Je parle pas encore à la machine à café.
Annie.
Si tu me demandes des trucs, tout, mais.
Mais là, ça fait un moment que vous êtes déjà en costume, coiffé, maquillé, etc. C'est pas gênant de se balader comme ça dans les couloirs, en perruquet?
Non, comme... regarde, la sœur qui m'en dirait Mars Attaque un peu. Les mômes qui ont vu ça. Annie, c'est la sœur. C'est elle avec qui on se frotte un petit peu, on se fait du pied, tout ça. Mais non, c'est pas gênant d'être en... Enfin, moi, je t'avoue franchement... Plus je peux être libre avec ça, plus ça m'arrange, moi. Mais ça dépend des gens. Moi, plus je peux me démerder tout seul au niveau de la coiffure, des fringues, ça, plus je gère mon temps seul, en fait. Et je préfère.
Vous aimez pas quand...
La prise en charge, en fait. J'aime pas ça du tout. Mais là, on est un peu coincé. C'est des pièces qui demandent ça, quand même. Les deux, ouais. C'est comme ça.
Ces vêtements-là, vous pouvez pas les mettre tout seul?
Si, je peux les mettre tout seul. Mais en fait, moi, là, c'est quand même un peu spécial parce que on est à 3 jours de la première et puis j'ai toujours pas vraiment trouvé dans quoi je me sens le mieux. Donc, on essaye des choses différentes un peu. Alors, on en parle avec Brigitte et puis on essaye de chercher encore un peu.
C'est la bonne chemise?
Oui, c'est la bonne. Eh bien, je mets une cravate à Philippe, mais je suis pas spécialement très douée.
Ouais, elle dit ça.
Ouais, c'est un nœud simple, je suppose.
Oui.
Alors, on va essayer de voir si on la fait bien ou pas.
C'est pas mal, hein?
C'est pas sûr.
Ah!
Voyons voir.
Il faut que je fasse une petite remarque.
Oui.
Et lui fasse une petite remarque.
Dis-moi.
Et alors, bon, et ben, on espère que le gilet cachera le...
Le bas.
Le bas.
Elle est trop
mais
courte.
Voilà, en principe, en principe. Il faut qu'on arrive à ça.
Oui.
Et le vélin,
où est-ce que j'allais? Dans ma loge? Ouais, dans ma loge, on va. Et puis après, on va aller... Ça va, hein? Bon, là, j'ouvre ma loge. Il y a mon nom dessus, Erika Moslino. Je suis assez fier. Là, vous pouvez rentrer. Je ne me suis pas encore acheté de bouteille de whisky, mais ça ne va pas tarder. Je vous paierai un canon si vous restez.
Passer au bistrot avant la noce, c'est mon ami.
Oh oui, c'est bien.
Oui, c'est...
Ça va t'arranger. Oui, ben merci, la maman.
Famille.
Merci, ouais. J'aime bien, ils sont gentils. J'aime bien ma maman. Puis c'est varié comme menu en plus.
Dans le temps où ça se fait pour moi l'habillage, c'est-à-dire grosso modo une demi-heure avant la représentation, entre une heure et une demi-heure, pour moi, il ne peut pas se passer grand-chose, si tu veux, dans la détente et dans la liberté de se raconter vraiment et de se parler, puisque mon esprit il est tourné que à l'endroit où on va commencer à jouer. Donc après, c'est très compliqué, quoi.
Mais là, c'est que mouillé, ça va pas tenir.
Non, j'ai mis de la veille.
Ça va, là, comme ça?
Comme ça, tu veux dire, je suis comme ça.
Ça me paraissait vachement
compliqué. Et là, costume noir, costume du père. Alors, effectivement, le prestige du rôle leur donne des mouvements encore un petit peu plus attentifs, un peu comme à l'église, les enfants de chœur qui portent le surplis, les étoles, manipulent tout ça, toutes les pièces du costume liturgique. Il y a une certaine onctuosité pour le faire. Hein. C'est un certain. On sent d'ailleurs, on sent que, par exemple, là, le costume du père, ça leur dit quelque chose. Quoi. C'est peut-être aussi leur père à elle. Quoi. Toute cette poésie qui passe.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois d'oublier l'habilleuse qui est un élément du décor, mais que vous finissez par ne plus voir dans le travail?
Oui, ça, c'est possible. À un certain moment, elles sont là, on peut être très concentré sur une chose, et paf, elle nous réajuste un truc, elle nous brosse, elle nous enlève une tâche, etc., et on la voit plus. Donc elles sont instrumentalisées un peu comme ça. Mais ça, c'est une qualité. Parce que si elle la ramenait trop, elle casserait la concentration. Donc elles ont aussi ce tact-là, cette finesse. Et ça se sent, c'est en dehors des mots. Puis plus le moment, par exemple, d'une première arrive, plus elle aussi ressent le moment solennel.
Monique, c'est ton
tour.
C'est trop chaud.
Oui, celle, s'il vous plaît.
Et oui, papy, tu fermes ce reclin. Une petite mèche qu'on en met parce qu'on va allumer tout. Et voici la mariée est habillée.
L'important, c'est d'y aller.
C'est une jeune mariée.
Je te suis.
On a bien gagné.
Oui, je vais la mignonne.
Noir, hein. Mais bon. Le plus, c'est pas de se casser la figure. Parce que après, je serai pas jolie.
Demandez le programme. Demandez le programme du spectacle.
Toi, ça. De l'eau.
Mais je reste pas dans la cuisine.
C'est bon.
Ah non.
Quoi?
Voilà le cabillaud.
Ah! Ça me rappelle une histoire.
Mais mange mon père. Il est toujours le plus mal servi.
Non, d'abord l'histoire.
Le rideau se lève et le spectacle commence. Donc là, elles vont intervenir au moment des changements, bien évidemment. Et puis, de toute façon, on a toujours, même s'il n'y a pas de changement, j'ai pris l'habitude de mettre toujours des habilleuses de garde, parce qu'il peut y avoir le pépin, déchirure ou autre. Et puis, de toute façon aussi, parce que des fois, les comédiens ont des demandes qui ne sont pas de changement, mais qui sont des petites choses, des manies. De leur descendre des choses, de leur montrer d'autres, des gris-gris, des porte-bonheur.
Ça ne crépille pas plus. C'est une chaleur, tu sais. Il doit faire au moins 40, là, sur le plateau. À peu près, vas-y, 40.
Je vais pas sauter.
Viens, tu es en toilette.
On met des portants où on peut, et suivant le décor, suivant la place. Et puis, il peut avoir une loge dans les premiers dessous. On peut aller voir si vous voulez. On redescend en dessous de la scène et on a installé une loge pour un changement aussi.
Que tes obscénités ne me parlent plus et que tu aies cassé mon fauteuil. Vous auriez peut-être mieux d'attendre le lit nuptial de l'hydromie. Pas au calme !
Ça, c'est pour... C'est pour un changement pendant un tambour.
C'est-à-dire quelqu'un, le comédien a le temps de descendre.
Voilà, la personne n'a pas le temps de monter. Au début, on a essayé, on fait toujours des essais. Elle est montée dans sa loge et après, elle doit se remaquiller. Et elle, c'était trop juste. Donc, par contre, maintenant, elle descend juste là, c'est moins long. Et elle va à jardin, il y a un côté, il y a aussi une table avec de quoi faire le maquillage. Et elle va se faire maquiller. On gagne un peu de temps.
Est comme effacé dans ma tête. J'ai seulement plus de sueur. Je ne comprends plus très bien.
Les poissons ne t'ont pas mangé.
Donc il y en a une qui va s'occuper que des boutons devant, l'autre qui va être
derrière le comédien pour enlever et remettre. Et la troisième qui est au pied, qui elle s'occupe des chaussures et du pantalon. Donc là, c'est bien réglé parce que ça se fait en 15 secondes.
Avec le linge, au train où tu vas, tu finiras sur la paille.
La comédienne a de nouveau besoin de nous enfin de deux façons différentes, c'est-à-dire de devoir la déshabiller, c'est sûr, de la libérer de son costume, mais en même temps, suivant comment s'est passée la représentation, eh bien là, de la même manière qu'au départ, on est obligé de gérer le côté de devoir les aider à passer le cap si ça n'a pas marché, quoi, en fait, notamment. Si ça a bien marché, ça ne pose pas de problème. Mais si ça n'a pas marché, si elle s'est trouvée mauvaise ce soir-là, la mauvaise humeur vient, et à nous de gérer de nouveau la chose. Mais vous savez, c'est toujours délicat, parce que je pense que, en fait, de devoir raconter ça, c'est pas facile déjà, puis je crois que c'est pas vraiment le propos. Parce que ça fait partie de la billeuse aussi, c'est comme les trois singes. Vous voyez ? Donc, elle voit rien, elle entend rien, et elle dit rien. En fait, je crois que c'est ça qui est important. Parce que sinon, si justement il y a une confidence de fait, c'est pour que ça reste entre la billeuse et le comédien ou la comédienne. C'est des choses un peu intimes.
Voilà, ma fille, elle a sorti et du coup, moi, la robe, je la relave parce qu'elle est dans un état, tu n'arrives pas à détacher. Hein. Du coup, là, elle est partie, parce qu'en plus, demain, pour la première. Hein.
Elle va finir le coup si vous avez
du jouet. Non, je sais.
Je n'irai pas nous comparer à des teinturiers, mais on est quand même amené localement à détacher ce qui sera du fond de teint, du rouge à lèvres, enfin tout produit de maquillage, ou alors quand on a la chance, comme on va l'avoir là dans le Brecht, dans la noce, de la nourriture, du poisson, pudding. Crème anglaise et vin qui est du jus de raisin, bien évidemment, coupé d'eau, mais vous imaginez les tâches qu'on va avoir sur les costumes, puisque la noce se dégrade et les costumes avec. Mais sauf qu'il faudra qu'ils soient de nouveau en état et impec le lendemain. Donc là, de nouveau, beaucoup de travail le lendemain.
Ça va comme ça ?
Bon, un grand merci à vous toutes qui prenez tant soin de nous. Je vous embrasse très fort, Karen. Qu'est-ce qu'on a encore, hein ? Alors, chères toutes, les petites fées de tous les pays, Espagne, Italie et France et autres, merci à toutes de vos épingles douces, de vos gestes enveloppants. Je suis vêtue de votre tendresse. Merci encore, Francis.
C'est qui, Francis ?
Je pense que c'est Francis Frappa. C'est un comédien.
J'ai quelques vrais amis comédiens, mais j'en ai très très peu. Très très peu. C'est des gens que j'aime beaucoup, que je respecte bien évidemment énormément. Mais travaillant toute la semaine, toute l'année même, faut vraiment trouver une amitié avec un comédien, une comédienne qui ne parle plus de son métier quand on la rencontre. C'est très rare.
Des centaines de costumes entreposés sur des portants bien alignés, depuis l'habit Louis XIV jusqu'à la robe années 80. Dans un vaste hangar de Saint-Denis s'entassent 30 années de spectacle. C'est la réserve de l'Odéon, véritable livre d'histoire du théâtre. Monique Bonzon, la chef habilleuse, est aussi la gardienne de cette armée de fantômes.
Je sais que quand je vois des costumes de Jean-Luc Boutet, qui a été pour moi un des plus grands acteurs et metteurs en scène par la suite, c'est vrai, bon, c'était un ami en plus, et c'est une nuit très très difficile, non seulement j'ai automatiquement un film qui passe dans ma tête, quoi. Automatiquement je vois Jean-Luc qui nous a quittés maintenant, mais je veux dire, c'est quelque chose de très important, et j'ai beaucoup de mal d'ailleurs à prêter ses costumes.
Ce qui est assez formidable, c'est qu'à partir de là, quand la première fois que j'ai visité la réserve des costumes avec Monique Bonzon, je me suis rendu compte que des femmes comme Monique Bonzon ou comme Josette Planet à Chaillot sont des femmes qui sont la mémoire du théâtre. C'est-à-dire qu'elles sont capables de s'arrêter devant n'importe quel costume, devant n'importe quel accessoire, devant n'importe quelle paire de chaussures, en vous disant, voilà, alors, cette robe, c'est Jeanne Moreau qui la portait à telle époque, dans telle pièce, dans telle scène, mis en scène par un tel, avec ce collier de perles, ses chaussures étaient pour Jean-Louis Barrault quand il jouait ça, etc., etc. Et malheureusement, ce sont des métiers qui sont en train de disparaître.
Est-ce qu'on peut parler d'un luxe pour les habilleuses, pour le théâtre ?
Est-ce qu'on peut parler d'un luxe quand on parle de la culture ? Ça dépend. Il y a des gens qui pensent que la culture, c'est un luxe. Il y en a d'autres, comme moi, pensent que la culture, c'est un produit de première nécessité.
Moi, j'ai mes anciennes collègues, quand je suis arrivée ici, qui disaient déjà qu'elles étaient la cinquième roue du carrosse. Je dirais que maintenant, on doit être, si c'est même plus la cinquième, quoi. C'est presque inexistant. Il y a des grandes paroles, effectivement. Il y a des grandes phrases de dites. Mais en définitive, ça n'est pas appliqué. On le voit même notamment sur les salaires, sur... Les filles ne sont pas du tout reconnues autant qu'un accessoiriste ou quelqu'un du plateau. Il a fallu se battre pendant 30 ans pour faire reconnaître un CAP de couture par rapport à un CAP de menuiserie. Parce que d'abord, c'était le côté femme en plus. Là, il faut se battre un petit peu pour avoir le côté égal. Je crois qu'il est difficile de faire valoir quelque chose qui, n'est pas connu. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est, effectivement, c'est un métier qui, même à la limite, n'est pas reconnu parce qu'il n'est pas connu, en fait. Le jour où il sera connu, donc on saura en quoi il consiste, peut-être qu'on aura un tout petit peu plus de chances d'être reconnu, d'être considéré un petit peu mieux que du petit personnel, en fait.
Réglage des saluts. Est-ce que tous les comédiens peuvent venir au plateau 3 minutes ? Est-ce que tous les comédiens peuvent venir au plateau 3 minutes pour régler les saluts avec Jo ? Merci.
Les habilleuses de l'Odéon avec dans le rôle des habilleuses Monique Bonzon, Isor Cavé, Bénédicte Keguiner, Christine Rockstedt, Florence Tedeschi. La costumière Brigitte Triboulois. Les comédiens Éric Elmosnino, Philippe Maurier-Genoux, Sylvie Orcier, Marie-Paul Tristram. Le metteur en scène Georges Lavaudan. Et la participation de Sophie Lukaszewski. Merci à toute l'équipe de l'Odéon Théâtre de l'Europe.
Nuit magnétique, Georges Arrigoni, Frédéric Sourdoyer, Isabelle Eckert, Jean-Claude Gauthier, Véronique Lamandour, Sylvain Biville,
Olivia Buffy. Nuit magnétique.
Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er juin 1998.